Tom Jones ou Histoire d'un enfant trouvé. Livre premier. Contenant sur la naissance de l'enfant trouvé, tout ce qu'il est nécessaire ou convenable d'en dire au lecteur au commencement de cette histoire. Chapitre premier. Introduction à l'ouvrage ou menu du festin. Un auteur doit se considérer non comme un homme qui donne un repas à ses amis ou à des pauvres qu'il nourrit par charité, mais comme un traiteur qui tient une table d'hôtes, à laquelle toutes sortes de personnes sont bien reçues pour leur argent. Il est reconnu que le premier peut faire à ses convives telle chère qu'il lui plaît, que quelque fade, quelque désagréable même qu'elle puisse leur paraître, ils n'ont aucun droit de s'en plaindre, et que la politesse les oblige au contraire de paraître approuvée, de louer même ce que l'on sert devant eux. Celui qui tient une table d'hôtes doit s'attendre à un sort tout différent. Ceux qui paient leur dîner exigent que leur goût soit satisfait, quelque délicat, quelque bizarre qu'il puisse être. Et si chaque mets ne flatte pas agréablement leur palais, personne ne peut leur refuser le droit de critiquer le repas, de s'en plaindre et même d'envoyer le traiteur au diable. C'est pour éviter ces désagréments réciproques et ne pas s'exposer à perdre leur chaland que l'usage est prévalu dans ces sortes de maisons, pour peu qu'elle soit honnête et bien montée, de présenter à tous ceux qui y entrent le menu des différents mets que l'on y trouve, afin qu'ils aient le choix ou de demeurer, en s'accommodant de ce qui leur est offert, ou de se retirer pour se rendre à une autre table mieux servie à leur goût. Comme nous ne dédaignons pas d'emprunter de l'esprit ou de la sagesse de quiconque est en état de nous en prêter, nous avons bien voulu condescendre à imiter ces honnêtes traiteurs. Nous allons donner en conséquence non seulement le menu général des mets que nous pourrons servir à nos lecteurs pendant tout le repas que nous leur préparons, mais encore des menus particuliers pour chacun des services qui se succéderont dans ce volume et dans les suivants. Toutes les provisions que nous avons faites jusqu'ici se réduisent à un seul article, la nature humaine, et je ne crains point qu'aucun lecteur sensé, quelque épicurien qu'il puisse être dans ses goûts, se plaigne, me chicane, ou se retire, parce que je ne fais mention que de ce seul article. La tortue, comme le sait par une longue expérience l'Alderman de Bristol, l'homme qui a poussé le plus loin les sublimes connaissances de l'art de manger, la tortue contient à elle seule une infinité prodigieuse de mets divers. Et le lecteur instruit peut-il ignorer que dans la nature humaine, quoique désignée ici par un nom générique, il existe une si étonnante variété que le cuisinier le plus érudit aurait assaisonné toutes les différentes espèces d'animaux et de végétaux connues dans les quatre parties du monde avant qu'un auteur ait eu la force d'épuiser un sujet aussi étendu. Je pourrais appréhender une objection de la part des hommes les plus délicats. Ce mets, s'écrieront-ils, est trop commun et trop vulgaire. N'est-ce pas le sujet rebattu de tous les romans, de toutes les nouvelles, de toutes les pièces de théâtre, de tous les poèmes dont tous les étalages de libraires abondent? Mais un grand nombre de mets exquis pourraient donc être rejetés par un épicurien s'il leur suffisait d'être communs et vulgaires pour être méprisés. Puisqu'il n'y a pas de si misérables ruelles dans le quartier le plus obscur de la ville où l'on en rencontre portant le même nom. Pour continuer la même métaphore, le tout dépend de l'assaisonnement que l'auteur sait y mettre. Car, comme dit M. Pope, le véritable esprit est la nature ornée. C'est ce que tout le monde a pensé, senti, vu, et que personne encore n'avait si bien rendu. Le même animal qui a l'honneur de représenter sur la table d'un duc peut déroger ailleurs. Où donc est la différence entre la nourriture du plus grand seigneur et celle du portefaix, lorsque tous deux ont à leur dîner une portion du même bœuf ou du même veau, si ce n'est dans la manière de l'assaisonner, de l'apprêter, de la décorer et de la servir? C'est par là seulement que l'une provoque et excite l'appétit le plus languissant, tandis que l'autre émousse et rebute souvent la faim la plus dévorante. Il en est de même de la nourriture de l'esprit, dont la beauté dépend moins de la nature des mets en lui-même que du talent de l'auteur pour l'apprêter. Quelle sera donc la satisfaction du lecteur quand il verra que nous avons fidèlement suivi dans cet ouvrage l'un des plus sublimes principes du meilleur cuisinier que ce siècle, ou peut-être même celui d'Héliogabale, ait jamais produit? Ce grand homme, si bien apprécié par tous les amateurs d'une chair fine et délicate, commence d'abord par servir des mets communs à ses convives affamés, et s'élève ensuite par degrés et en proportion inverse des besoins présumés de leurs estomacs jusqu'à la quintessence la plus pure des sauces et des épices. Ainsi, nous présenterons d'abord la nature humaine à l'appétit dévorant de nos lecteurs, sous la forme simple et commune où elle est aperçue dans nos campagnes. Nous la relèverons ensuite avec tous les assaisonnements d'affectation et de vice que nous fournirons abondamment les cours et les villes de France et d'Italie. Nous ne doutons point que ces moyens n'excitent la curiosité de nos lecteurs, comme on suppose qu'ils ont réussi au grand personnage dont nous venons de parler pour exciter l'appétit de ses convives. Ceci posé, nous ne tiendrons pas plus longtemps à la diète ceux de nos lecteurs à qui notre menu est agréable. Et pour satisfaire leur appétit, nous allons leur offrir sur le champ le premier service de notre histoire. Chapitre 2. Esquisse du caractère de Monsieur Allworthy. Portrait plus détaillé de Miss Bridget Allworthy, sa sœur. Dans la partie de l'ouest de l'Angleterre, communément appelée Somersetshire, vivait il y a peu de temps, et peut-être vit encore, un gentilhomme dont le nom était Allworthy, et qui, à juste titre, pouvait être appelé le favori de la nature et de la fortune, car toutes deux semblaient s'être disputées à qui le comblerait de plus d'excellentes qualités et de richesses. Quelques-uns pourront penser que la nature était sortie victorieuse de ce débat, puisqu'elle l'avait accablé de ses dons, tandis que la fortune n'en avait eu qu'un seul dans son pouvoir. Mais en le lui faisant, elle s'était montrée si prodigue que d'autres pourront regarder ce seul bienfait comme un équivalent plus que suffisant de tous ceux qu'il avait reçus de la nature. Celle-ci l'avait doué d'un physique agréable, d'une constitution saine, d'un jugement sûr et d'un cœur bienfaisant. Celle-là l'avait fait hériter de l'une des terres les plus étendues et les plus riches du comté. Ce gentilhomme avait, dans sa jeunesse, épousé une femme aussi estimable que belle, dont il avait été éperdument amoureux. Il en eut 3 enfants qui moururent tous dès leur bas âge. Il eut encore le malheur de perdre cette femme chérie 5 ans environ avant l'époque où cette histoire a été publiée. Il supporta cette perte, quelque grande qu'elle fût pour lui, avec toute la fermeté d'un homme sage et courageux. Nous devons cependant confesser qu'il y avait un peu de bizarrerie dans la manière dont il en parlait quelquefois. Il disait souvent qu'il se regardait toujours comme marié, qu'il considérait sa femme comme ayant entrepris un peu avant lui un voyage qu'il ferait très certainement un peu plus tôt, un peu plus tard, et qu'il n'avait pas le moindre doute de la rencontrer encore dans un lieu où, désormais, il ne se séparerait plus d'elle. Et qu'il n'avait pas le moindre doute de la rencontrer encore dans un lieu où, désormais, il ne se séparerait plus d'elle. Sentiment pour lequel une partie de ses voisins faisait le procès à son bon sens, une autre à sa piété, une troisième, enfin, à sa sincérité. Il passait la plus grande partie de l'année retiré à la campagne, avec une sœur pour laquelle il avait l'amitié la plus tendre. Cette dame avait un peu plus de 30 ans, âge auquel, si l'on en croit les médisants, on peut prendre sans impropriété le titre de vieille fille. Elle était de cette sorte de femmes que l'on estime plus pour leur bonne qualité que pour leur beauté, et qui sont généralement appelées, par leur propre sexe, du nom de « bonne femme », et que vous aimez assez, mesdames, à rencontrer dans le monde. Elle était en effet si loin de regretter de n'être point belle, que jamais elle ne parlait sans mépris de cette perfection, si l'on peut nommer ainsi la beauté, et que souvent elle remerciait Dieu de ne pas lui avoir donné autant d'attrait qu'à Miss une telle, qui peut-être eût été plus sage si elle eût été moins jolie. Miss Bridget Allworthy, car tel était son nom, pensait avec raison que les charmes personnels n'étaient autre chose dans une femme que des pièges dressés pour elle-même aussi bien que pour les autres. Cependant, elle avait autant de discrétion dans sa conduite, sa prudence était toujours aussi constamment en garde, que si elle avait eu à craindre tous les pièges qui furent jamais tendus à son sexe, depuis le commencement du monde. Et j'ai réellement observé, quelque étrange que cela puisse paraître au lecteur, que cette garde de la prudence, semblable à la milice bourgeoise, n'est jamais plus disposée à faire son devoir que là où il y a le moins de danger. Lecteur, avant d'aller plus loin, je crois convenable de vous instruire que j'ai le projet de faire, dans le cours de cette histoire, tout autant de digressions que l'occasion s'en présentera à moi. Je vous préviens que je m'en établis moi-même le juge, m'en rapportant plus à mes propres lumières qu'à celles d'un misérable critique, quel qu'il soit. Je prends cette occasion de prier tous ces messieurs de s'occuper de leurs propres affaires et de ne se mêler ni des affaires ni des ouvrages qui ne les concernent en aucune façon. Car jusqu'à ce qu'ils produisent les titres qui les constituent mes juges, je n'irai point plaider à leur tribunal. Chapitre 3. Événement singulier qui arrive à M. Allworthy à son retour chez lui. Conduite décente de Mrs. Deborah Wilkins, avec quelques réflexions convenables sur les bâtards. J'ai dit à mon lecteur, dans le chapitre précédent, que M. Allworthy avait hérité d'une grande fortune, et qu'il avait un bon cœur et n'avait point d'enfants. D'où l'on conclura sans doute qu'il vivait en honnête homme, ne devait pas un shilling, ne prenait que ce qui lui appartenait, entretenait une bonne maison, recevait ses voisins à sa table avec plaisir et cordialité, et était charitable envers les pauvres, c'est-à-dire le plus souvent, envers ceux qui aiment mieux mendier que travailler, leur donnait les reliefs de sa table, mourut immensément riche et fonda un hôpital. Il est vrai qu'il fit beaucoup de ces choses, mais s'il n'eût rien fait de plus, je le laisserai rappeler à la postérité son propre mérite sur quelques belles pierres de taille bien polies au-dessus de la principale porte de son hôpital. Le sujet de cette histoire sera beaucoup plus extraordinaire. Autrement, il serait trop ridicule que j'eusse consenti à prodiguer mon temps pour écrire un ouvrage aussi volumineux que celui-ci. M. Allworthy était resté 3 mois entiers à Londres pour une affaire particulière que j'ignore, mais qui sans doute était très importante, puisqu'elle l'avait retenu si longtemps loin de sa maison, dont il ne s'était pas absenté l'espace d'un mois de suite depuis un grand nombre d'années. Il arriva à son château très tard dans la soirée, et, après avoir soupé légèrement avec sa sœur, se retira dans sa chambre, extrêmement fatigué. Il venait de passer quelques minutes à genoux, usage dont il ne se dispensait jamais sous aucun prétexte, et se préparait à se mettre au lit, lorsque, levant sa couverture, il vit, à sa grande surprise, couché entre ses draps, un enfant enveloppé dans un linge grossier, dormant d'un sommeil doux et profond. Il resta quelque temps immobile et frappé d'étonnement à cette vue. Mais comme la bonté l'emportait toujours dans son cœur, il commença bientôt à être touché de compassion pour le petit malheureux. Il tira sa sonnette et donna ordre de faire lever sur le champ une ancienne gouvernante de la maison en l'avertissant de se rendre sans délai auprès de lui. Cependant, il était si attaché à contempler la beauté de l'innocence, embellie de ces couleurs charmantes qui parent le front de l'enfance endormie, ses pensées étaient tellement arrêtées sur cet objet qu'il n'eut pas le temps de réfléchir qu'il était en chemise, quand la vieille servante entra. Elle avait pourtant donné à son maître un temps suffisant pour s'habiller, car autant par respect pour lui que par égard pour la décence, elle avait passé je ne sais combien de minutes à ajuster ses cheveux devant sa glace, malgré la précipitation que le domestique avait exigée d'elle. Et quoi qu'elle ignorât si son maître n'était pas en danger de mourir d'apoplexie ou de quelque autre attaque de cette nature. On ne sera pas étonné qu'une créature qui tenait tant à la décence pour elle-même se trouvât choquée du moindre oubli de cette vertu dans un autre. Elle n'eut pas plutôt ouvert la porte et vu son maître debout en chemise à côté du lit, une lumière à la main, qu'elle recula, frappée du plus terrible effroi. Et elle se serait peut-être évanouie tout à fait si M. Allworthy ne se fût au moment même rappelé l'état dans lequel il était, et n'eût mis fin à cette erreur en la priant de rester dehors jusqu'à ce qu'il eût jeté quelques vêtements sur ses épaules, et pu paraître sans choquer les chastes yeux de Mrs. Deborah Wilkins, qui, quoique dans la 52e année de son âge, affirmait n'avoir jamais vu un homme sans ses habits. Les railleurs et les impies riront peut-être de son effroi, mais mon lecteur, plus grave et plus sensé, considérant l'heure de la nuit, l'ordre qu'elle avait reçu de sortir précipitamment de son lit, et la situation dans laquelle elle trouva son maître, la justifiera complètement, et applaudira à sa conduite, à moins que l'expérience qu'il faut toujours supposer dans les filles de l'âge de Mrs. Deborah ne diminue un peu de son admiration. Quand Mrs. Deborah fut rentrée dans la chambre et eut été instruite par son maître de la découverte du petit enfant, elle fut frappée d'une consternation plus grande encore que ne l'avait été celle de M. Allworthy, et elle ne put s'empêcher de s'écrier, avec l'accent de l'effroi qui régnait également dans ses yeux, « Mon cher monsieur, eh, que faut-il faire ?» M. Allworthy lui répondit qu'il fallait prendre soin de l'enfant cette nuit, et que dès le lendemain matin, il donnerait des ordres pour lui trouver une nourrice. « Fort bien, monsieur, » dit-elle, « et j'espère que monsieur emploiera son autorité pour faire arrêter la malheureuse qui est sa mère, car il faut que ce soit une de nos voisines. Je serais bien charmé de la voir enfermée à Brightwell et fouettée à la queue d'une charrette. En vérité, d'aussi méprisables créatures ne sauraient être trop sévèrement punies. Je garantirai que ce n'est pas son premier. J'en juge par son impudence à l'attribuer à monsieur. « Me l'attribuer, Deborah ?» répondit monsieur Allworthy. « Je ne puis penser qu'elle ait formé un pareil dessein. Je suppose seulement qu'elle s'est servie de ce moyen pour que l'on prît soin de son enfant. Et je suis vraiment heureux qu'elle n'ait pas fait pis. Je ne sais pas ce qu'elle pouvait faire de pis, » s'écria Deborah. « Et quoi donc ? Ces malheureuses abandonnées pourront mettre impunément le fruit de leur débauche aux portes des honnêtes gens ? Et quoique monsieur connaisse bien sa propre innocence, le monde est si médisant, et il est arrivé à plus d'un honnête homme de passer pour le père d'enfants qui ne lui appartenaient pas. Et si vous prenez soin de l'enfant, on le croira encore plus facilement. D'ailleurs, pourquoi monsieur prendrait-il soin d'un enfant que la paroisse est obligée d'entretenir ? Encore si c'était l'enfant d'un honnête homme. Mais quant à moi, il me répugne de toucher ces malheureux bâtards que je ne regarde pas comme mes semblables. En vérité, monsieur, il n'a pas l'odeur d'un chrétien. Si j'étais assez hardi pour donner mon avis, je voudrais qu'on le mît dans un panier, qu'on le portât dehors et qu'on le déposât à la porte d'un marguillier de la paroisse. Voilà justement une nuit favorable, seulement un peu de vent, un peu de pluie, mais s'il est bien enveloppé et mis dans un panier bien chaud, il y a 2 contre 1 à parier qu'il vivra jusqu'à ce qu'on le trouve dans la matinée. Dans le cas contraire, nous aurons rempli notre devoir en prenant de lui un soin convenable. Et il vaut mieux peut-être, pour de telles créatures, mourir dans un état d'innocence que de grandir et d'imiter leur mère, car on ne peut rien en attendre de mieux. Il y avait dans ce discours quelques traits qui auraient peut-être offensé M. Allworthy s'il l'avait écouté attentivement. Mais il avait en ce moment l'un de ses doigts dans la petite main de l'enfant qui, en la pressant légèrement, semblait implorer son assistance. Cette muette éloquence l'eût emporté de beaucoup sur celle de Mrs. Deborah, eût-elle été 10 fois plus grande encore. Il lui donna sur le champ l'ordre d'emporter l'enfant dans son lit et de faire lever une servante pour lui préparer de la bouillie et les autres choses nécessaires avant qu'il se réveillât. Il ordonna également qu'on lui fournît tous les petits vêtements convenables de bonne heure dans la matinée et qu'on le lui rapportât à son lever. Tel était le discernement de Mrs. Wilkins, tel était le respect qu'elle portait à son maître, dans la maison duquel elle jouissait d'une excellente place, que ses scrupules s'évanouirent totalement en recevant ses ordres. Elle prit l'enfant entre ses bras, sans aucune apparence d'aversion pour l'illégitimité de sa naissance, et après avoir déclaré que c'était un charmant petit enfant, elle se retira et l'emporta dans sa chambre. M. Allworthy se livra ensuite à ce sommeil agréable dont un cœur affamé de bienfaisance est si disposé à jouir quand il est pleinement satisfait. Comme ce sommeil est le plus doux que je connaisse, je prendrai plus de soin pour en peindre tous les charmes à mon lecteur si je savais quel air lui conseiller pour lui en procurer un semblable. Chapitre 4. Description qui met le lecteur en danger de se rompre le col. Il en réchappe. Grande complaisance de Miss Bridget Allworthy. L'architecture gothique n'a jamais rien produit de plus noble que le château de M. Allworthy. Il avait un air de grandeur qui frappait de vénération et égalait en beauté la plus riche architecture de l'ancienne Grèce. La commodité des distributions intérieures répondait à la majesté du dehors. Il était situé au sud-est d'une montagne, mais plus près de sa base que de son sommet, en sorte qu'il se trouvait abrité du nord-est par un magnifique bois de vieux chênes qui s'élevait au-dessus pendant l'espace de près d'un demi-mille, comme les gradins d'un amphithéâtre. Et cependant, il était placé à une hauteur qui le laissait jouir du charmant aspect de la vallée qui s'étendait au-dessous. Au milieu du bois était une superbe allée descendant en pente vers le château. De sa partie la plus élevée, jaillissait une source abondante que vomissait un rocher couvert de sapins et qui formait une cascade continuelle de 30 pieds environ. Sa chute n'était pas régulière, mais elle tombait naturellement et s'échappait à travers les morceaux de roches brisées et couverts de mousse jusqu'à ce qu'elle fût parvenue au pied du rocher. Puis, roulant sur un lit de cailloux dans un canal qui lui ménageait, en serpentant, une quantité de moindres chutes, elle tombait enfin au pied de la montagne, environ un quart de mille au-dessous du château, du côté du sud, dans un lac qui était vu en face de tous les appartements. De ce lac, qui occupait le centre d'une plaine superbe, embellie par des groupes de hêtres et d'ormes, et animée par des troupeaux, sortait une rivière que l'on voyait pendant plusieurs milles s'égarer à travers une étonnante variété de prairies et de bois, jusqu'à ce qu'elle se perdît dans la mer, dont un large bras, dominé par une île agréable, terminait le paysage. Sur la droite de cette vallée s'ouvrait une vue d'une étendue moins considérable, ornée de plusieurs villages et terminée par une des tours d'une vieille abbaye ruinée, totalement couverte de lierre, et dont une partie de la façade se soutenait encore, sans paraître avoir éprouvé les outrages du temps. La gauche offrait la vue d'un très beau parc composé de terrains inégaux et agréablement variés. On y voyait des montagnes, des plaines, des bois, des eaux dirigées avec un goût admirable et devant moins leur beauté à l'art qu'à la nature. Derrière le parc s'élevait par degrés une longue chaîne de montagnes inhabitées dont les sommets se perdaient dans les nues. On était au milieu de mai. La matinée était pure et sereine. M. Allworthy se promenait sur sa terrasse, d'où l'aurore découvrait successivement le paysage admirable que nous venons de mettre sous les yeux du lecteur. Bientôt, après avoir lancé des flots de lumière qui s'élevaient devant lui et sillonnaient la surface azurée du firmament, comme pour précéder sa pompe, le soleil se leva dans tout l'éclat de sa majesté. Un seul objet sur la terre pouvait effacer sa gloire. Et cet objet était M. Allworthy, un être humain rempli de bienfaisance, méditant de quelle manière il pourrait se rendre le plus agréable à son Créateur en faisant le plus de bien possible à ses créatures. Lecteur, prenez-y garde. Je vous ai conduit, sans y penser, sur le sommet d'une montagne aussi élevée que celle qui couronne le château de M. Allworthy. Comment vous en faire descendre sans vous rompre le col? Je ne le sais pas bien. Hasardons cependant de nous laisser glisser ensemble jusqu'en bas. Car Miss Bridget tire sa sonnette et M. Allworthy va descendre pour déjeuner. C'est dans leur salle à manger que je suis obligé de vous suivre, et où, si vous le permettez, je serai charmé de vous tenir compagnie. Je suppose les compliments et salutations ordinaires entre le frère et la sœur épuisés, et le thé versé. M. Allworthy fit appeler Mrs. Wilkins, et dit à sa sœur qu'il avait un présent à lui faire, pour lequel elle le remercia, imaginant sans doute que ce devait être une robe ou quelque ajustement plus précieux encore, car il lui avait souvent fait des présents de cette nature, et elle, pour lui plaire, passait un temps considérable à se parer. Je dis pour lui plaire, car elle affectait toujours un grand mépris pour la parure et pour les femmes qui en faisaient leur principale étude. Mais si telle fut son espérance, qu'elle fut cruellement trompée quand Mrs. Wilkins, conformément à l'ordre qu'elle avait reçu de son maître, apporta le petit enfant. On a observé que les grandes surprises sont muettes, et telle fut celle de Miss Bridget jusqu'à ce que son frère eût pris la parole et lui eût raconté toute l'histoire que nous ne rapporterons pas puisque le lecteur la connaît déjà. Miss Bridget avait toujours affiché un si grand respect pour ce que les femmes se plaisent à honorer du nom de vertu, elle avait elle-même conservé si sévèrement l'austérité de son caractère, que l'on devait s'attendre, et surtout Mrs. Wilkins, qu'elle donnerait carrière aux réflexions les plus amères en cette occasion, et qu'elle exigerait en quelque sorte qu'on renvoyât au plus tôt l'enfant hors du château, comme une espèce d'animal nuisible. Mais elle préféra prendre la chose du bon côté, exprima quelque compassion pour cette petite créature abandonnée, et loua grandement la charité de son frère dans ce qu'il avait fait en cette circonstance. Peut-être le lecteur trouvera-t-il l'explication de cette conduite dans la complaisance de Miss Bridget pour M. Allworthy, quand nous l'aurons informé que cet excellent homme avait terminé son récit en annonçant la ferme résolution de prendre soin de l'enfant et de l'élever comme le sien propre. Car, nous devons en convenir, elle était toujours prête à obliger son frère, et ne contrariait ses opinions que très rarement, si même cela lui arriva jamais. Non qu'elle ne fît pas quelquefois de légères observations, telles que celle-ci par exemple, que les hommes étaient obstinés, qu'il ne fallait pas les contrarier, et qu'elle aurait bien voulu être assez heureuse pour jouir d'une fortune indépendante. Mais ces observations étaient toujours faites à voix basse et s'élevaient tout au plus jusqu'au murmure. Toutefois, ce qu'elle épargna à l'enfant, elle en fut extrêmement prodigue envers la pauvre mère inconnue, et épuisa sur elle tous les noms injurieux dont la vertu ne manque jamais de déchirer celles qui déshonorent leur sexe. On délibéra ensuite sur les moyens à prendre pour découvrir cette malheureuse mère. D'abord, on scruta la conduite des servantes du château. Elles furent toutes acquittées par Mrs. Wilkins, et avec une justice apparente, car elles étaient toutes de son choix, et peut-être aurait-il été difficile de rencontrer ailleurs un semblable assortiment d'épouvantail. L'examen devait ensuite se porter sur les habitantes de la paroisse. Le soin en fut donné à Mrs. Wilkins, qui se chargea de faire son rapport dans l'après-dîner. Tout étant ainsi convenu, M. Allworthy se retira dans son cabinet, suivant son usage, et laissa l'enfant à sa sœur, qui, à sa prière, avait bien voulu en prendre soin.